Seigneur, nous te remettons ces instants. Encore une fois, nous savons que nous avons tant besoin de toi et nous avons cette certitude que tu nous gardes, que tu nous garderas. Alors Seigneur, nous te remettons ces instants pour que tu puisses nous parler, tu puisses nous aider à grandir avec toi, à grandir, à mieux te connaître, comme on vient de le chanter, à te suivre encore mieux. Seigneur, nous te remettons ces instants. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la série sur les paraboles chez Luc, avec le texte de Luc 14, 25 à 35. Alors, il est vrai que d'utiliser le mot parabole pour ce texte est un peu présomptueux, mais il y a trois petites paraboles, trois mini-paraboles, trois images, si vous voulez. Est-ce que vous connaissez Jeannie Longo ? Une légende régionale. Une fois, je l'ai vue, je faisais du vélo, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Je montais entre la Tronche et le Sapet, et je vois une fusée qui me double dans la côte. C'était Jeannie Longo. Ça m'a marqué à vie, parce que j'ai pu voir le gap qu'il y a. Alors c'est une légende régionale, hein, puisqu'elle habitait dans la région, je ne sais pas s'il y a toujours, du cyclisme français. Mais à l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne connaissent pas, le cyclisme féminin était amateur. Et donc on vivait de sponsors qui donnaient un peu d'argent, et c'est tout, et ils les donnaient qu'aux meilleurs. Elle a commencé le cyclisme à l'âge de 14 ans et a rapidement montré un talent et aussi une longévité exceptionnelle. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes cyclistes de tous les temps. Elle a remporté 4 médailles au JO, dont une en or. Et tenez-vous bien, 26 médailles au championnat du monde, dont 13 en or. Mais ce n'est pas tout. Elle a remporté, alors que je ne me trompe pas, 85 médailles au championnat de France, dont 60 en or. Elle a eu une longue carrière où, passé 50 ans, elle battait les jeunes de 20-25 ans. Vous imaginez, sans trop d'efforts, que sa vie, entièrement consacrée à la compétition, lui a demandé de nombreux sacrifices, renoncements, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain, parce que, sauf erreur de ma part, elle n'a pas eu d'enfant. Vous imaginez que sans un entraînement intense, une discipline intense et intraitable, et un engagement sans faille, sa carrière n'aurait pas été ce qu'elle a été, évidemment. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous laisse deviner. Allez, lisons Luc 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondements, les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir ». De même, si un roi part à la guerre contre un autre roi. Il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je propose comme idée centrale de ce message, le disciple de Jésus donne tout et ça coûte. Et nous allons voir ça en trois points. Le disciple, d'abord, le disciple donne tout. Être disciple, ça coûte cher. Et enfin, le disciple imite le maître Jésus, ce qui est la définition d'un disciple. Le disciple imite son maître. Commençons par le disciple donne tout. Donc d'abord, pour situer le contexte, à partir de Luc 9, 18, Jésus se dirige de la Galilée vers Jérusalem, où il sera confronté à sa passion et à sa crucifixion. Tout au long du voyage, il enseigne et prépare ses disciples à comprendre la véritable nature de son royaume. Comme disait Rebecca tout à l'heure, ils s'attendaient à avoir un Messie, un roi qui débarrasse Israël des Romains, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il leur enseigne à comprendre les exigences de devenir son disciple, mais aussi l'urgence d'annoncer le message du salut et l'adversité qu'ils devront affronter. Pour situer, aujourd'hui on célèbre le dimanche des rameaux. Cette histoire précède l'image des rameaux. Hein, c'est une histoire qui est un peu avant. Mais Jésus, il faut comprendre que Jésus est sur le chemin vers Jérusalem. Hein, il est là. Et la semaine prochaine, nous fêtons Pâques. Voilà, c'est l'aboutissement de son périple qu'il suit en ce moment dans ce texte. Au début du verset 25, nous lisons « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit. » Alors, parmi ces foules se trouvaient sans doute des pèlerins allant à Jérusalem pour la fête de Pâques. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture, d'avion, donc il fallait un certain temps pour partir de la Galilée pour aller jusqu'à Jérusalem. Ça prenait du temps. Donc il y avait certainement des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils allaient eux aussi à Jérusalem. Certains étaient attirés par sa réputation, émerveillés par ses miracles et ses enseignements. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait le bouche à oreille. Hein. Donc sa réputation était connue. D'autres cherchaient peut-être à s'attirer les bonnes grâces de Jésus, un petit miracle, hein, sans forcément vouloir devenir son disciple. Enfin, certains le suivaient sincèrement pour devenir disciple de Jésus. Mais si Jésus s'adresse aux foules, c'est pour s'assurer qu'elles comprennent ce que signifie vraiment devenir son disciple. Jésus ne cherche pas une foule nombreuse, mais des disciples véritables, prêts à accepter, ça bouge, c'est moi qui fais bouger, les exigences élevées que cela représente. Il veut des disciples, pas des fans. Alors, plus précisément, au verset 26, 27 et 33, nous lisons « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants » alors certaines traductions disent « sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants », c'est juste une formule. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr son père, sa mère, je précise, pour ceux qui ont l'autre traduction. Donc, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et au verset 33, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Pouh ! Ben dis donc, le message est clair. Hein ? On ne peut pas tellement dire que c'est difficile à comprendre ce texte. Mais c'est lourd, comme dirait mon petit-fils. Il envoie du lourd. Suivre Jésus demande un engagement total. Suivre Jésus impose également aux candidats disciples une rupture souvent douloureuse avec tout ce qui est spontanément précieux, tout ce qui nous est cher. Faire de suivre Jésus sa priorité absolue prend le pas sur tout autre choix ou attachement. Voyons cela. Alors, sur le plan des relations, on voit que lorsqu'il dit que quelqu'un doit le préférer à sa famille, Jésus utilise une figure de style pour montrer que la loyauté envers lui doit surpasser toutes les autres, y compris envers sa propre famille. Ensuite, sur le plan de la vie personnelle, Jésus répète au verset 27 ce qu'il a déjà dit en Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Porter sa croix, à l'époque, signifie accepter les défis, les sacrifices et les persécutions qui peuvent accompagner la décision de suivre Jésus. À l'époque, la croix était un symbole de souffrance et de mort. Et porter sa croix indique une volonté de supporter les épreuves jusqu'à la mort, si nécessaire. S'abandonner soi-même ou mourir à soi-même, c'est renoncer à ses propres désirs pour suivre les enseignements de Jésus. Enfin, sur le plan des possessions, verset 33, Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jésus appelle ceux qui veulent devenir disciples à renoncer à tout ce qu'ils possèdent, au-delà même des biens matériels. Bon, cela ne signifie pas, excusez-moi, nécessairement un abandon littéral de toutes ses possessions, mais plutôt une disposition à le faire si c'est nécessaire. Le message porté par ces trois versets est clair. On ne peut plus clair. Suivre Jésus, et c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, « Je veux te suivre », il me semble. Hein. Voilà, donc on va voir ce que ça veut dire. Pour chanter, c'est facile. Mais suivre Jésus requiert la loyauté du disciple qui surpasse même les liens familiaux et personnels. Suivre Jésus demande aux disciples une disposition à s'abandonner, à renoncer à soi-même, allant jusqu'à donner sa vie pour lui. Suivre Jésus exige du disciple l'acceptation à renoncer à toutes ses possessions. Alors quand j'en étais là dans mon message, je me suis dit, oh là là, c'est un peu dur là. Qui peut être disciple? Alors, après ce que je viens de dire, c'est pourquoi Jésus insiste en mettant en garde ses disciples contre un engagement précipité et leur adresse un avertissement sérieux. Être disciple, ça coûte cher. Alors, pour illustrer le prix à payer pour le suivre, Jésus s'appuie sur deux courtes paraboles, images paraboles, de contextes différents. Tout d'abord, la construction d'une tour, et deuxième contexte, la guerre. Relisons tout d'abord la première dans Luc 14, versets 28 à 30. « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » Le terme « tour » fait référence à un édifice imposant, destiné à attirer les regards. La construction d'un tel ouvrage implique probablement un coût élevé, d'où la nécessité de s'asseoir d'abord pour prendre le temps et réfléchir et calculer la dépense. Je peux dire, c'est quand même du bon sens que je pense chacun de nous applique. Hein, pour quand on construit une maison, un appartement, on commence déjà par s'assurer qu'on va avoir les moyens de le terminer. C'est vraiment une parabole de bon sens. C'est ça qui me fascine chez Jésus. Il a un bon sens. Waouh, c'est incroyable. Ignorer cela, ce bon sens, laisser l'édifice inachevé, risque de soumettre le propriétaire aux moqueries des observateurs. On va regarder la deuxième parabole. Mini-parabole, on va dire. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Alors, il n'y a plus tant de rois que ça, mais des guerres, il y en a. Et cette seconde parabole vise finalement le même but que la première, avec une nuance. La vie chrétienne n'est pas comparée à une tour nécessitant une grosse dépense, mais à une guerre périlleuse contre un ennemi avec des forces bien supérieures. Il faut mieux rester en paix avec cet ennemi que de risquer une défaite honteuse. Ces deux mini-paraboles appartenant au bon sens commun nous exhortent à considérer le coût de notre engagement pour Jésus. Et nous invite à prendre en compte les périls qui risquent d'en découler, comme la persécution, par exemple. Dans la première parabole, le risque est le ridicule. Mais on sait tous que le ridicule ne tue pas, parce qu'on a tous été à un moment donné, un jour ou l'autre, ridicule. Et ça ne nous a pas tués. Mais en revanche, dans la seconde, les conséquences peuvent être graves, très graves. C'est une question de vie ou de mort. Alors, je reviens à Jenny Longo. Pour un sportif de haut niveau comme Jenny Longo, il est essentiel d'évaluer le coût d'une longue carrière avant de s'y engager. Je rappelle que c'était des carrières amateurs et il fallait pourtant en vivre. Les coûts financiers, qui incluent le matériel de pointe, les transports et l'hébergement lors des compétitions, sont très élevés. Très élevés. Pour des gains très modéré. À cela s'ajoutent les sacrifices familiaux et un entraînement quotidien intensif, sans oublier les régimes alimentaires stricts pour éviter la prise de poids, l'ennemi du sportif et surtout du cycliste. Plus encore, être cycliste, ben c'est dangereux. C'est dangereux. Alors moi, je fais du vélo, mais dans les descentes, je ne vais pas très vite. Je fais attention. Je me dis, si tu te casses un os, tu vas passer un long moment sans plus faire de vélo. Allez, va doucement. Mais eux, ils descendent à 100 à l'heure dans les montagnes qui nous entourent. 80, 90, 100. Donc c'est dangereux. Ils peuvent tomber et se faire très mal. Ils peuvent même, dans certains cas, en mourir. Donc une vie dangereuse, évidemment. Avec le degré d'exigence du sport de haut niveau aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les meilleurs sportifs d'une génération soient tous prêts à payer le prix de ce haut niveau. J'utilisais cette illustration pour nous amener à considérer le prix de devenir disciple. Pardon. Nous avons vu précédemment que devenir disciple de Jésus, exige de placer Dieu en priorité absolue. Par conséquent, être disciple a un coût très élevé. Jésus souligne l'importance de réfléchir au prix à payer et aux risques encourus avant de s'engager à devenir son disciple. Et c'est à cela que nous sommes un peu interpellés ce matin, à réfléchir à tout cela. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on dit « Oui, comme vous l'avez chanté, je te suivrai. » Le candidat disciple doit prendre conscience des sacrifices à consentir. Et puis, si on regarde Jésus qui est sur le chemin vers Jérusalem et vers la croix, ces deux paraboles montrent avec quel sérieux Jésus s'était lui-même préparé à la mort. Et dans les deux derniers versets, Jésus enfonce le clou. Le disciple imite le maître, Jésus. Alors ça, c'est par définition. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, c'est une formule classique. Dans les évangiles, Jésus utilise 3 fois l'image du sel pour enseigner qu'un disciple, ne vivant pas selon les principes du maître, est aussi inutile que du sel sans saveur. Plus encore, il n'est même pas utilisable pour enrichir la terre, puisqu'ils utilisaient le sel directement pour enrichir la terre, ou le mélangeaient au fumier pour enrichir la terre. Donc, voilà, un disciple qui ne cherche pas à faire ce que son maître désire, c'est comme du sel sans saveur. Vivre selon les principes du maître ou être disciple, c'est par définition imiter le maître. Le disciple imite son maître. Être disciple de Jésus, c'est donc imiter Jésus et lui ressembler pleinement. Cela mène à une profonde métamorphose, tant mentale que spirituelle, connue sous le nom de croissance spirituelle. On parle souvent de croissance spirituelle. Cela correspond aussi à ce que Paul désigne par « porter le fruit de l'esprit » en Galates 5, 22. Un cheminement vers une vie remplie de valeurs portées par Jésus, telles que l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Eh bien, dis donc, tout ça pour ça, je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. Le problème, c'est que nous partons quand même de loin. Voilà la liste des comportements humains en prise avec le mal que Paul dresse en Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables, n'en jetez plus. Voilà d'où nous partons. Mais Luc 14, 25, 35, avec ses exigences radicales, comme renoncer à tout pour Jésus ou porter le fruit de l'Esprit, semble insaisissable. Je ne sais pas vous, mais quand j'en arrive là, si je m'arrête là, je me pose la question, mais qui peut devenir disciple de Jésus sous ces conditions ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein, c'est pas chose facile. Ça paraît hors de notre portée. Et pour couronner le tout, notre texte ne nous donne aucune piste pour nous dire comment y parvenir. Alors, faut-il désespérer ? La réponse est non. Voilà, vous avez réussi. Premièrement, si Jésus exige un tel niveau d'engagement et de consécration, cela doit nécessairement être réalisable. Deuxièmement, le Nouveau Testament regorge d'exemples de transformation radicale. Pendant le ministère terrestre de Jésus, rappelez-vous, les disciples ne comprenaient rien à rien et faisaient tout de travers. Et pourtant, après la Pentecôte, ils ont révolutionné le monde. Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et cela malgré qu'il ait persécuté l'Église. Vous voyez, tout est possible. Enfin, Jésus a dit « Sans moi ». Et on l'a chanté tout à l'heure, hein, je crois. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous pouvons donc compter sur l'aide de Dieu. Je ne me rappelle plus quel chant qui disait je ne me rappelle plus parce que je ne le connais pas, mais vous... Oui, mais pas seulement... C'était celui un petit peu avant, où il dit que si tu n'es pas en moi, je... Ouais. Nous pouvons donc compter sur l'aide de Dieu qui a mis son Esprit Saint en chaque croyant né de nouveau. Donc, tout espoir est permis. Mais le texte de Luc 14 ne nous explique pas comment atteindre un tel niveau d'exigence. Alors, je ne voulais pas m'arrêter là dans le message, parce que j'ai dit tout ce qu'on a dit. Il faut quand même donner quelques pistes pour essayer de voir comment on peut mettre en pratique tout ça, malgré d'où on part. Et on part de loin. La Bible ne reste pas silencieuse sur cette question, la question du comment. On va essayer de voir ensemble comment faire en pratique en s'appuyant sur l'image du jardinier. Est-ce qu'il y a des jardiniers parmi nous ? Est-ce qu'il y en a qui aiment le jardin ? Ouais. Ouais. Bon, moi, je peux même pas tenir une bêche. Si je donne 3 coups de bêche, j'ai mal au dos le lendemain. Donc, je ne touche pas au jardin. Mais c'est dommage parce que l'illustration est vraiment belle. Imaginez un jardin luxuriant, rempli de fleurs et de verdure, symbolisant notre croissance spirituelle ou le fruit de l'esprit. Ce jardin prospère grâce à une coopération harmonieuse entre les efforts du jardinier et les forces naturelles. Cependant, malgré tous les efforts du jardinier, le jardin ne prospérera pas sans l'intervention des forces naturelles que sont le soleil, la pluie, la richesse du sol. Hein, vous connaissez ça même. On met même de l'engrais pour que ça aille mieux. À l'inverse, sans le travail du jardinier, le jardin livré à la nature... il reste une friche. La croissance spirituelle, c'est-à-dire chercher à ressembler Jésus à Christ ou porter le fruit de l'Esprit, représente ce jardin. Voilà le jardin que nous devons cultiver. Essayer de ressembler à Jésus, être le sel de la terre, la lumière du monde. Le jardinier incarne le disciple et les forces naturelles, le Saint-Esprit. Alors, tout comme le jardinier qui travaille la terre, devenir disciple demande des efforts personnels, adaptés et efficaces. Lesquels, je vais vous en citer des choses que vous connaissez déjà, que vous avez entendues 100 fois. Ou alors, si c'est la première fois que vous venez, vous l'entendrez pour la première fois. Mais je pense que moi, je l'ai peut-être entendu dans ma vie chrétienne, peut-être pas un millier de fois, mais facilement 500 fois. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut la persévérance dans les pratiques spirituelles. Ça, c'est... J'aime pas dire ça parce que c'est un effort qui coûte. Mais, voilà, comme Jeannie Longo, il faut mettre un effort dans les pratiques spirituelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les pratiques spirituelles ? La méditation de la Bible, la prière sous toutes ses formes, c'est ce qu'on répète sans arrêt, mais aussi la communion fraternelle, être ensemble, se frotter les uns aux autres. La Sainte Cène. Je crois vraiment que la Sainte Cène est une discipline spirituelle importante. Mais sans oublier non plus le baptême. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de cultiver l'amour, la patience, la bonté et les autres qualités chrétiennes. Alors, justement, le but, c'est d'atteindre tout cela. Alors, comment faire ? Eh bien, garder en point de mire, en viseur, dans le viseur, ces qualités chrétiennes. Si on ne les garde pas dans le viseur, si on n'y pense même pas, on n'a pas beaucoup de chances d'y arriver. Enfin, quoique le Saint-Esprit peut agir malgré nous, mais gardons ça dans le viseur. Gardons ça dans le viseur. Gardons ça, ces valeurs chrétiennes, dans notre viseur. Cultivons l'amour, la patience, la bonté, etc. Et enfin, c'est une évidence, c'est suivre les enseignements de Jésus et appliquer ses principes dans la vie quotidienne, mais c'est justement là le défi que Jésus nous pose dans ces deux petites paraboles. Non. Bon, voilà ce que nous, on a à faire. Le jardinier, il doit essayer de faire ça. Il y a certainement d'autres choses que je n'ai pas notées, on ne va pas y passer trop de temps, mais ce sont les choses à peu près essentielles qu'il faut qu'on garde en tête. Sinon, ça va être une friche. Et le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Sans lui, d'abord, rien n'est possible. C'est pour ça que Dieu nous a équipés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit ? Il régénère et transforme. Qu'est-ce que ça veut dire, régénérer ? C'est la nouvelle naissance. Il met en nous son esprit. Et il nous transforme. Il nous transforme progressivement. Il change notre façon de penser. Ce que la Bible appelle renouvellement de l'intelligence. Il change notre façon de penser, notre façon de voir, nos priorités. Il travaille dans nos cœurs pour nous renouveler et nous conformer à l'image de Christ. Alors, j'ai mis quelques références bibliques, oui. J'ai pas appuyé, donc effectivement, voilà. Si j'appuie, c'est mieux. Il guide et enseigne. Il nous conduit dans la vérité et nous révèle les profondeurs de la parole de Dieu. Et ça, on l'a tous expérimenté. Mais c'est pas tout. Il confère des dons spirituels. Il nous équipe pour servir les autres et édifier l'Église. Et c'est lui qui produit du fruit. Parce qu'on parle du fruit de l'Esprit. Donc c'est lui qui nous aide à croître, à grandir et à porter le fruit de l'Esprit. Alors, pour conclure ce dernier point, la parabole du sel nous enseigne que devenir un disciple authentique implique de ressembler à son maître, ce qui est finalement une définition. Et comment ? Eh bien, en portant du fruit. Ça veut dire porter le fruit de l'esprit. C'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle résulte d'une coopération harmonieuse entre les efforts du disciple et l'action puissante du Saint-Esprit. Ensemble. Ils permettent aux disciples de progresser dans sa foi et de vivre une vie qui glorifie Dieu. Alors, j'avais mis tout à l'heure l'image du papillon et de la chenille. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça prend parfois toute une vie, ce cheminement. Et je pense que chacun d'entre nous, moi, ça fait bientôt plus de 40 ans que je suis chrétien, 40, 45 ans. Quand je dis 45 ans que je suis chrétien et que je vois les fruits que je porte, je me dis, c'est quand même, on pourrait mieux faire, ce qu'on dirait. Pas vous. On devrait dire pourrait mieux faire. Mais quand je regarde avec un peu plus d'optimisme, je vois aussi les transformations qui ont été faites. Et ça, on peut les mesurer. Et c'est une coopération, comme je viens de le décrire, je ne veux pas le répéter, mais entre nous et le Saint-Esprit. Attention, chercher à ressembler à Christ par ses propres forces ou attendre que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ, sans aucune contribution personnelle, conduira, dans les deux cas, à l'échec, la friche spirituelle. Voilà, c'est le dernier point. Alors, maintenant, on va passer à la conclusion. Vous savez, j'ai passé 65 ans, donc j'ai tendance parfois à radoter. Je préfère vous le dire dès maintenant, que vous ne soyez pas choqués. En conclusion, avec le texte du jour, nous avons tout d'abord vu qu'être disciple implique de donner à Dieu la priorité absolue sur ses relations, ses possessions et sa propre vie. Sans une fidélité inébranlable dans cet engagement spirituel, on ne peut être un véritable disciple de Jésus. Ensuite, à travers les deux courtes paraboles, nous avons appris qu'avant de s'engager à suivre Jésus, le candidat disciple doit prendre conscience du prix à payer, des sacrifices à consentir et des risques encourus. Et je pense que depuis que vous avez rencontré Dieu, vous avez déjà pu comprendre quels sont les risques encourus, en partie. Je pense que parmi nous, qui a une vie linéaire, sans problème parmi nous ? Ah non, c'est dommage quand même. Eh bien oui, c'est ça la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas une vie linéaire sans problème. Enfin, la troisième parabole insiste sur le fait qu'un disciple qui ne vit pas selon les principes du maître est aussi inutile que du sel sans saveur. L'image est forte. En d'autres termes, le disciple de Jésus doit croître spirituellement, porter du fruit et devenir semblable à Jésus. Bon, ça c'était... Alors, je vais rappeler, comme je radote, on pourrait résumer Luc 14, 15, 25 par... je vais essayer de faire ça en une seule phrase. Suivre Jésus exige de lui donner la priorité absolue, accepter des sacrifices et réfléchir sérieusement à cet engagement total. Voilà un résumé de nos nos versets. Et puis on s'est posé la question, est-ce que c'est possible d'atteindre un tel but? Parce que ça fait peur. Alors, on a vu que si on est invité à ce niveau d'exigence, à réaliser ce niveau d'exigence, on a vu qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. La croissance spirituelle est un objectif progressif. Mais ayons cette perspective de croissance en tête. C'est un objectif progressif qui résulte d'une coopération dynamique entre nos efforts personnels et l'action du Saint-Esprit. En revanche, se passer d'efforts personnels, on l'a vu aussi, ou se passer de l'action du Saint-Esprit peut conduire à l'échec. Il faut bien s'en rappeler. Combien de chrétiens m'ont dit « mais moi, je laisse le Saint-Esprit tout faire ». Puis quelques temps plus tard, on ne les voit plus à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, ben, ils ont abandonné la foi. Hein ? Et dans ma vie, j'ai aucune leçon à donner à personne, parce que dans ma vie personnelle, il a été un temps où j'ai un peu agi comme ça. Mais le Saint-Esprit en moi a fait « toc, toc ». Coucou, c'est moi. Tu te rappelles? Hein, ça, mais moi ça m'est arrivé de dire, bon, écoute, tout ça, c'est bien, mais je laisse le Saint-Esprit agir. Ça ne marche pas. Si vous pensez comme ça, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Mais rappelons-nous aussi que Dieu est patient et miséricordieux. Il comprend nos luttes et nos limitations. Plus encore, Jésus nous appelle pas à avoir une relation de maître au sens si tu fais pas ce que je te dis, tu vas t'en ramasser une. Non, c'est pas ça. C'est pas la base de la relation que nous avons avec Dieu. Cette base de notre relation, c'est l'amour et la confiance. Et non la peur de l'échec. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vous ai résumé une phrase là. Suivre, qui résume à mon avis, brièvement, peut-être pas complètement, mais ce que nous avons lu ce matin, dans ces divers versets, suivre Jésus exige de lui donner la priorité absolue, accepter des sacrifices et réfléchir sérieusement au coût de cet engagement total. Je pense que j'ai à peu près résumé, bien, j'en sais rien, mais j'ai résumé. Et je voudrais qu'on passe quelques temps à se poser entre nous des questions, voilà, que vous puissiez à votre tour compléter cet enseignement. Et la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ces divers versets ?